Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 136e épisode de Torréfaction. On se retrouve comme tous les vendredis matins à 8h pour une petite sélection de l'actu. On va parler gaming, app, culture et tech avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
Oui, bonjour Fasquille.
Ça va bien?
Oh là là, super, génial. En ce moment, une grosse patate.
Il y a du soleil.
Il y a du soleil dans ma tête. Ça doit être une des paroles d'une chanson. Écoute, on fait aller et c'est la respiration de la semaine. Travailler sur ce podcast, c'est mon petit plaisir. Et d'ailleurs, je voulais remercier tous nos amis, les patrons, ça me fait, à chaque fois, ça me fait marrer de dire les patrons, hein, mais c'est le mot français, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Et les Paypalons. Ouais. Les Paypalons fidèles. On vous oublie pas. Et d'ailleurs, je tiens à remercier ceux qui avaient débarqué cette semaine. Alors que bon, on n'avait pas à mériter vos deniers, hein. Il s'est passé un truc dans votre vie et on était un petit peu mou du genou, mais merci. Et donc, on continue, évidemment. Torréfaction, c'est un peu notre projet, notre cœur de métier en ce moment. Et puis, ça tombe bien parce que je pensais que la semaine dernière, en commençant ce document, nous n'aurions pas grand-chose à dire.
Si, ça va.
Voilà, et j'ai même déjà décalé, bonus, hein, spoiler, j'ai déjà décalé des trucs à la semaine prochaine parce qu'il ne faut pas déconner.
Allez, on y va tout de suite avec le gaming et un site qui devrait bien servir dans les semaines qui viennent, E3 Recap.
Ah, c'est mes nouveaux meilleurs amis. C'est un site qui existe depuis des années et que je ne connaissais pas du tout. Bah voilà, on n'avait pas fait notre travail. Alors évidemment, comme son nom l'indique, E3 Recap, c'est en fait un site qui se dédie tous les ans à récupérer toutes les bandes annonces et tous les trucs qui ont été annoncés à l'E3 pour pouvoir les consulter en un seul endroit, avec un système de filtres par machine, des légendes, etc. Donc vous pouvez aller regarder tous les trailers qui sont disponibles sans vous prendre la tête à aller chercher les news qui sont publiées généralement grâce à la magie du SEO au compte-gouttes. Donc évidemment, tous les sites web, à part nous, parce qu'on n'aime pas assez l'argent, sont publiés genre individuellement. On va parler de la PlayStation juste après, la PlayStation 5. Bon, bah toutes les news des jeux qui ont été annoncés pendant la conf, tous nos confrères généralement ont tendance à les mettre un par un dans sur leur site, ce qui est ça part d'un bon sentiment ou pas en fait. C'est beaucoup de travail. Alors quand c'est un gros jeu où il y a plein de choses à dire, ok, mais souvent à ce moment des annonces, surtout sur une nouvelle machine, on est quand même dans des trucs relativement pauvres en termes d'informations. Donc du coup, à part le trailer, ou qui est généralement d'ailleurs un teaser de trailer qui nous dit pas grand chose sur le jeu lui-même, c'est un petit peu d'espace perdu pour rien. Donc avec ce site, vous avez accès à tout. Je l'ai découvert en lisant l'excellent Ars Technica qu'on ne présente plus, et c'est une excellente surprise. Vous allez voir que c'est mis à jour excessivement souvent, et ça tombe bien parce que évidemment je vous rappelle que cette année il n'y a pas d'E3, donc vous allez me dire, mais le 3 récap, il récap quoi? Donc cette année, il récap toutes les annonces de tous les événements virtuels qu'il y a sans arrêt depuis une semaine maintenant, même un peu plus.
Ce qui va bien être pratique, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Hein.
Voilà, moi, personnellement, je suis complètement paumé. Hein, alors que, en plus, on s'est tapé deux événements sur les présentations de jeux PC. Avec les mêmes jeux, puis c'est surtout, enfin, majoritairement de la merde, ou des trucs qu'on connaît déjà, ou des trucs qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Mm-hmm. La seule conf qui tenait à peu près la route pour l'instant, c'était la conf sur la PS5 de Sony, qui était vraiment solide, avec plein de choses nouvelles à dévoiler. Mais sinon, voilà quoi. Donc là, vous allez pouvoir faire vos petits filtres, vos machines préférées, les dates de sortie, et bim, vous allez voir si c'est dispo et si ça vaut le coup de perdre du temps à regarder tout ça. Voilà, donc un site à connaître et à bookmarker.
Et puis t'en parlais, la PlayStation 5 a enfin été officiellement dévoilée.
Ah, presque. Alors oui, parce que physiquement, on sait que maintenant c'est un truc énorme, ne mettez pas de blague derrière cette phrase. Et donc globalement, on est un petit peu satisfait, mais quand même il reste des choses, bravo monsieur Sony, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore exactement ce qu'il y a dans la machine, ils n'ont pas fait la présentation technique complète, on a plein d'informations qui ont été dévoilées avant avec des conférences très techniques mais ésotériques, si tu veux, t'as des chiffres en vrac, etc, mais on peut mieux faire, on ne connaît pas encore tout, mais maintenant voilà, on sait quelle gueule ça va avoir, on sait quelle gueule vont avoir les pads, ça c'était déjà fait, on en avait déjà parlé, on sait qu'il y aura une télécommande et une ligne de produits lui avec une webcam et un casque dans le même design. Et donc, le design en question, vous l'avez tous vu, j'ai fait une news récapitulative avec moi tous les jeux qui avaient été annoncés dans la même news qui est linkée dans le billet qui accompagne ce podcast. Et la bonne nouvelle, moi, très honnêtement, pendant toute la présentation, je pensais qu'on allait être encore un peu frustré et qu'on attendrait une nouvelle présentation pour la machine elle-même. Mais non, ils ont fait des petits effets 3D et à la fin, le menhir blanc est arrivé. Alors, c'est un énorme truc, hein, on va pas se mentir. La vraie surprise, c'est qu'elle va être disponible en deux versions. Une version avec le lecteur de Blu-ray et une version digitale pour les gens qui ont une vraie connexion Internet et qui, comme moi, détestent se lever pour aller changer de jeu. Oui, on en est là, ok, c'est bon, ne vous moquez pas, et je sais que je ne suis pas le seul, arrêtez de me juger. Donc là, cette version digitale, elle a un avantage, c'est qu'elle est moins... Alors, moi, je la trouve pas moche, mais pas mal de gens la préfèrent parce qu'elle est plus symétrique, donc il n'y a pas cette espèce d'excroissance pour faire rentrer le lecteur Blu-ray dessus. Elle est présentée sur les photos de manière verticale, et il y a eu des comparaisons de fait avec les tailles annoncées, etc. Bon, c'est un beau bébé, hein. C'est un engin qui verticalement éclate la taille de la Xbox One S, évidemment. Si vous mettez sur la tranche une bonne vieille Xbox, la grosse de l'ancien temps, bah, apparemment c'est à peu près la même taille. C'est pour vous donner une idée de l'engin. Alors c'est moins immonde et c'est moins moche. Moi personnellement, vraiment le look, j'insiste, me déplaît pas.
Moi j'aime beaucoup aussi.
Voilà, avec les petites LED bleues sur le côté, ok, whatever. Franchement, on a vu largement pire. En tout cas, je trouve ça pas du tout aussi... quelconque et nul que la prochaine Xbox Series X qui est qui est une espèce de parpaing noir qui est pas, fondamentalement pas moche, hein. C'est juste qu'il n'y a pas de design en fait, hein. C'est, les mecs ils ont fait une boîte noire, ils se sont dit voilà, on va mettre un logo et voilà, ça y est, le design il est fait. Donc de toute façon, entre ce qu'ils sont obligés de faire rentrer dans ces machines et les obligations de dissipation thermique qui viennent avec ce nouveau matériel, il n'y a pas non plus le choix, hein. Tu peux pas faire rentrer ça dans un boîtier de Nvidia Shield ou de Switch, sinon tu as des trucs dégueulasses à l'écran, faut savoir ce que vous voulez les enfants, de la performance ou un radiateur qui va cramer. Donc comme ils voudraient ne pas surcharger leur SAV, ils sont obligés de faire des designs de cette taille-là. Après, évidemment, comme dans toutes ces technologies, ceux qui attendent et qui n'achètent pas tout de suite verront certainement débarquer sur les étals des versions slim. L'autre truc qui nous manque aussi de cette présentation de la PlayStation 5, c'est le prix. Le prix, on ne l'a pas. Et à mon avis, on l'aura vraiment au dernier moment, parce que je pense que Microsoft et Sony vont se tirer la bourre jusqu'au dernier moment pour annoncer tout ça. Même si, à mon avis, ils savent déjà exactement sur quoi ils vont taper, hein. Industriellement, ils sont déjà prêts. La version digitale, à mon avis, va tirer son épingle du jeu du côté de Sony. Est-ce qu'elle sera intéressante pour tout le monde? Je ne sais pas. Chez nous, on est quand même nombreux à être équipés avec des connexions relativement solides. Je sais qu'en disant ça, je me fais des potes avec tous les gens en ADSL. Il y en a encore beaucoup. Mais bon, voilà, c'est l'évolution. C'est comme ça que le marché va évoluer. Donc, c'est un petit peu normal qu'il soit prêt. J'ai pas tellement envie de parler des jeux en détail parce que j'ai déjà tout détaillé sur le site. Et puis, parler de trailers sans regarder les trailers, ça n'a pas d'intérêt de folie dans un podcast. En revanche, évidemment, impossible de ne pas citer Horizon Forbidden West, qui sera donc une exclusivité PlayStation 5, comme on s'y attendait. Suspect tellement c'est beau, hein. Je ne vais pas vous mentir, mais moi j'y crois. Je pense pas qu'il y ait énormément de bullshit sur les différents trailers qu'on ait vus. Il y a des jeux qui sont déjà annoncés comme étant PS4, PS5, donc forcément en termes de graphisme on est sur des trucs un peu entre deux, c'est pas forcément à se décrocher la mâchoire tout le temps, et en tout cas un des titres qui a été le plus remarqué, c'est pas forcément celui qui était techniquement le plus incroyable, même si c'est très très joli, mais c'est un jeu où tu joues un chat qui s'appelle Stray.
J'ai vu ça.
Ouais, tout le monde a bien kiffé et les gens qui sont comme nous, des gros joueurs PC, étaient aussi très contents de voir qu'il y a beaucoup 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 de jeux qui sont des exclus console PS5, mais qui sortent également sur PC, que ça soit sur Steam ou sur l'Epic Game Store. Donc, vous ne serez pas forcément obligé de sortir le porte-monnaie pour aller acheter cette console pour jouer à certains titres, sauf si vous voulez vraiment être vautré dans le canap et que vous avez toujours pas compris comment marchait Steam Link et compagnie. Mais bon, c'est une bonne nouvelle. En revanche, pour certains titres, c'est un peu moins clair. Un des titres qui a donné beaucoup de bonheur à certains copains masochistes, c'est le retour de Demon's Souls, qui s'annonce dans une version PS5 entièrement remasterisée, assez magnifique, mais toujours aussi violente, enfin surtout pour vos nerfs. Donc voilà, il y a énormément de choses à aller voir. Tout ça est résumé sur la news que j'ai fait sur Geekzone la semaine dernière, puisqu'évidemment les annonces ont été faites jeudi soir dernier, histoire de bien attendre que nous ayons terminé d'enregistrer le podcast. Un classique.
Et oui, que veux-tu ? On nous nargue. Alors, vous aviez déjà trop de jeux dans votre queue list et pas assez de sous, ça tombe bien parce que c'est le Steam Summer Festival.
Alors, c'est n'importe quoi cette semaine. Alors, je préfère y aller très très vite. Le Steam Summer Festival, c'est 6 jours et dans ces 6 jours, vous avez 600 démos à tester. et donc, c'est n'importe quoi, évidemment. Hein, voilà. Des démos en plus de jeux qui sont pas forcément terminés. Hein, donc, en plus, les mecs prennent des risques avec des trucs un peu broken. Mais bon, bah voilà, faites-vous plaisir. Vous vous rappelez, vous étiez content quand vous aviez 4 démos sur votre CD de joystick. Et bah là, vous ouvrez Steam. Vous en avez 600. Adieu. Bon courage à tous. Moi, j'ai pris le temps d'en tester 2-3, dont évidemment la nostalgie qui a parlé. Et j'ai été tester Windjammer 2 sur Dotemu. Le temps de voir qu'il va falloir qu'il règle l'IA, parce que sinon, on a tous l'impression d'être vraiment, vraiment très nul et avec des réflexes en carton. Alors, c'est peut-être le cas, hein, mais j'ai repris la version Neo Geo sur l'émulateur derrière et je fais, non, mais attends, ça va. Ça va. C'est, donc, le 2 est d'une violence dans la démo, là. C'est normal. Il n'y a que 3 persos jouables. Mais c'est rigolo, ça fait 100 mégas, vous pouvez tester ça rapidement. Et dans les démos un petit peu notables, il y a Everspace 2, Desperados 3, Fight Tactics. Pour déjà vous occuper ce week-end, ça sera pas mal, parce que je vous rappelle que ça s'arrête le 22, donc il y a un moment où il va falloir faire des choix. Et j'enchaîne directement, si tu le veux bien, avec les autres trucs gratos, comme ça sera fait.
Bah vas-y, écoute.
Parce que, voilà quoi, si jamais vous ennuyez ce week-end, je comprends pas. Hein. En tout cas, c'est que votre PC est en panne, je vois ça. Il y a une petite news rigolote qui est que GOG vous offre The Witcher 3, mais uniquement si vous l'avez déjà. Okay. En fait, c'est leur système qui permet de récupérer des jeux dans GOG si tu les as sur une autre plateforme. Donc en fait, là, ça va détecter si tu as la nouvelle version de GOG Galaxy, ça va détecter si tu l'as déjà sur Steam, par exemple, et hop, ça va te le rajouter dans ta liste qui, du coup, tu pourras y jouer avec la version GOG si tu ne l'avais pas déjà fait 4 fois avant. mais en tout cas, pour les gens qui aiment avoir leur collection complète, c'est très bien. Évidemment, du coup, vous aurez la version sans DRM, si je dis pas de bêtises. Et puis, Twitch qui offre toujours plein de jeux dans son super soft gratuit que personne veut utiliser. Mais cette fois, il y a Project Warlock, qui est un FPS à l'ancienne, qui fera plaisir aux gens qui aiment bien le rétro gaming, mais moderne. c'est un truc avec des textures assez laides. Mais
c'est un non-sens quand même, le rétro gaming moderne.
C'est ça, parce qu'en fait, c'est vraiment du... c'est les mecs...
Ouais, on va faire nostalgie, ouais.
Voilà, on va faire du FPS comme quand on était jeune, donc moche, mais toujours aussi rapide avec des textures un peu plus grandes. Mais bon, c'est assez particulier. C'est pas nul, hein, mais allez jeter un œil. Après, je comprendrai que certains fassent non. Je vais jouer à autre chose. Et puis il y a surtout l'excellent Observer qui va d'ailleurs débarquer dans une version remasterisée dans pas longtemps et qui est donc dispo gratos sur leur soft Twitch. Je vous link tout ça dans la news qui accompagne le podcast.
Et puis on va terminer cette section gaming avec un petit jeu pas cher sur Steam, West of Dead.
Oh là là, West of Dead, qu'on attend depuis un petit moment, parce qu'il est présenté depuis 2019, en long et en large. C'est un twin-stick shooter en cel-shadé, mais alors version 3D avec un cel-shading assez violent, un parti pris graphique qui va soit vous plaire, soit vous faire dire « Ma !» Non, celui-là, ça ne sera pas pour moi. C'est fait par les développeurs de Upstream Arcade et édité par les Suédois de Raw Fury, qui éditent énormément de jeux indés de qualité, généralement, en ce moment. Le personnage de ce titre se nomme William Mason. Vous avez une gueule tout droit sortie de Ghost Rider. Hein. C'est un mec du Far West avec un crâne enflammé. Donc, si jamais vous avez déjà vu ça... C'est normal, ça a été utilisé dans plein de trucs, dans des comics Marvel, etc. C'est pas du tout nouveau. Hein. Et c'est un petit peu le mot d'ordre de ce titre, le pas nouveau. Tu crois que c'est nouveau, mais c'est pas nouveau. Donc en fait, je vous la fais rapide, vous êtes coincé dans un purgatoire qui est en fait une entrée de saloon. Le jeu s'appelle West of Dead, hein, je vous rappelle, donc vous avez le thème. Hein. Vous avez une espèce de voix off qui vous raconte un peu ce qui va se passer. Donc, ça rappelle complètement Bastion, mais sauf que cette voix off, elle défonce parce que c'est la voix de Ron Perlman. Donc, ah oui. Tu sais que le budget, il est passé là déjà. Parce que le Ron,
il se faisait très très chier.
Ouais, mais Ron, bon, il faut financer les cigares quand même, hein. Faut pas déconner. Donc évidemment, c'est la méga classe. Et cette voix off, un petit peu à la façon de Bastion, va vous guider, vous expliquer ce qui se passe. Et donc, West of Dead, c'est quoi? Donc, ce twin stick shooter, c'est en fait un roguelike en 3D avec des constructions au niveau du gameplay qui sont pas sans rappeler un certain Dead Cells, mais genre vraiment, c'est-à-dire que tu vas ramasser des trucs dans les niveaux, ces trucs tu vas les à chaque fois que tu finis un level en fait, bah tu peux acheter des upgrades et ces upgrades tu vas les débloquer exactement comme les cells de Dead Cells en fait. Quand tu arrives à un certain nombre, boum, ce truc là, tu pourras l'acheter de temps en temps. Ça fait, il y a plein de trucs, tu as vraiment une impression de déjà vu. Tu passes dans une salle ensuite juste après où tu vas faire le plein de vie. Exactement comme dans Dead Cells. Ensuite, tu pètes une porte et hop, tu repars dans le niveau suivant. Donc vraiment, on est sur une construction qu'on connaît. C'est du roguelike, donc évidemment, vous allez crever en boucle, débloquer de plus en plus de choses et revenir. Alors, est-ce qu'il y a des trucs intéressants au niveau du gameplay? Ouais, c'est un gameplay qui est axé autour de la lumière. Donc, il y a des salles où, en fait, la lumière est éteinte ou allumée. Les ennemis qui sont dans la pénombre, vous ne pouvez pas leur tirer dessus. C'est extrêmement pénible. Eux vous voient très bien, ces petits bâtards. Je n'ai pas d'autres mots. mais si vous arrivez à faire une petite roulade et hop, en tant que ninja du Far West, vous allumez la lampe, ça va leur faire un petit stun. Donc, vous avez le temps de les aligner pendant un petit moment. Donc, on les aligne avec quoi? Soit avec vos petits point rageux à la mêlée, donc ça je vous conseille pas, hein, c'est vraiment pas magique. Mais vous avez donc trois archétypes de flingues, les pistolets, les shotguns, les fusils, qui vont influencer sur la distance à laquelle vous pouvez vous battre. Bon, en termes de gameplay, c'est propre, mais je vais pas vous mentir, c'est pas le gameplay du siècle. C'est-à-dire que moi j'ai un problème avec la caméra et avec ce gameplay random, c'est-à-dire que les niveaux sont générés aléatoirement. Et comme la caméra est fixe, bah avec cette caméra 3D un peu bizarre, souvent on a un petit problème de positionnement. Le jeu va vraiment, vraiment vous massacrer alors que vous avez rien demandé. Et des fois, il veut vous aider, mais il vous massacre quand même. C'est-à-dire que c'est un gameplay pas du tout à la Dead Cells où tu rushes dans tous les sens et puis tes réflexes vont faire le reste. C'est que tu vas te retrouver régulièrement à te planquer derrière des covers. C'est un gameplay vraiment à base de couvertures. Et donc, ces couvertures se font défoncer au bout d'un moment par vos ennemis, mais elles reviennent. Et là, petit bug du jeu, quand elles reviennent, si t'es trop près de l'endroit où elle est en train de repousser, le jeu comprend pas trop ce qui se passe et t'es stun pendant que l'ennemi te tire dessus et que la cover n'est pas revenue. Donc tu meurs. C'est un petit peu crispant, je ne vous le cache pas. Donc, moi, déjà, j'ai un conseil à vous donner, c'est que même s'il ne vaut que 20€ actuellement et qu'il est dispo sur Xbox One et ses variantes et Steam, attendez un petit peu quelques patchs avant de vous jeter dessus. Il sortira au mois d'août sur PS4 et Switch. Pour le moment, j'ai envie de dire que même à ce prix-là, je suis pas certain d'avoir envie d'y passer des heures. Ça manque un petit peu de polish. Et le gameplay dans l'ensemble, je trouve assez haché. Donc, tu as des phases d'achat, de discussion, etc. qui sont un petit peu inutiles. Tu n'es pas du tout dans un rythme ultra léché comme dans un Dead Cells. Et vu l'offre et le backlog de certains sur ce type de jeu, je suis pas certain qu'il se fasse une place tout de suite au soleil. Voilà. En revanche, si vous adorez la bande-annonce, que vous kiffez ce type de design, allez-y. Il y a une démo qui a été dispo pendant très longtemps. Je sais pas si c'est encore le cas, mais bon, voilà, il y a des previews un petit peu partout et vous pouvez vous faire votre avis assez facilement.
Allez, on passe du côté des apps avec une app qui s'appelle tout simplement Hey.
Oh, hey, hey, salut, ça va? Hey, qui est fait par Basecamp, qui est une nouvelle application pour révolutionner votre gestion de l'email.
C'est pas la 512e, ça?
Comment te dire? Alors, l'email, c'est aussi vieux et chiant qu'indispensable.
C'est ça.
Tout le monde s'en est bien rendu compte pendant le confinement, c'est-à-dire que l'email, ça reste votre moyen de communication principal dans pas mal d'entreprises. Il y a pas mal de boîtes qui ont découvert qu'en plus, oui, ça fait partie des documents officiels qu'on peut te coller dans la gueule si jamais il y a un problème, un différend avec un client, etc. Il y a plein de gens oublient ce genre de choses. Tu vois, j'ai dû faire, moi, des notes dans certaines sociétés avec des mails de rappel en mode genre « Attention, quand vous dites quelque chose à un client, ça vous engage. » Bref, le mail, c'est important, mais plein de gens utilisent toujours ça très, très mal. Moi, je ne comprendrai jamais les gens qui ont 50 milliards de trucs non lus sur leur petite bulle d'iPhone. Ça me stresse de ouf et je ne comprends pas que les gens reçoivent un mail et l'ouvrent même pas, en fait, tu vois.
Oui, c'est
c'est ça.
Juste pour le marquer et le dégager, j'en sais rien. Je respectais vous, les mecs. Bref, apparemment, tout le monde fait n'importe quoi et ça finit par énerver les gars de chez Basecamp. Basecamp, c'est une société qui fait un logiciel de gestion de tâches, gestion de projets, que personnellement, je déteste, vraiment. C'est-à-dire que c'est très joli, mais mon cerveau ne fonctionne pas du tout comme il voudrait que fonctionner si je devais utiliser cet outil-là. Je ne sais pas si c'était très clair, mais...
Si, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est beau à regarder, mais après, la logique du soft t'échappe complètement.
Exactement. Et les mecs qui sont derrière ce truc-là, qui s'appellent David Enheimer Hansen, donc on appelle DHH entre nous, hein, qui est le directeur technique, qui est un mec qui a entre autres fait Ruby on Rails, et Jason Fried, qui est le CEO. C'est ce qu'on appelle des bons nazis de la tech, et dans le bon sens. Hein, c'est...
Tu vas te faire des amis.
Je vais te faire des amis. Mais non, mais en plus, c'est un titre qu'il revendique, hein, au même titre qu'un Jason Gruber avec le Markdown, au même titre que le mec qui fait le logiciel de forum qu'on utilise sur Geekzone, par exemple. C'est des gens qui t'expliquent très simplement, voilà, j'ai fait ce truc-là, si ça te plaît pas, la porte, elle est là, et surtout, n'hésite pas à aller essayer la concurrence, mais viens pas nous faire chier. Et moi, j'aime beaucoup, cette, dans l'esprit, ça me plaît beaucoup, enfin, je veux dire, la modération de Geekzone fonctionne un peu comme ça, hein, pas se mentir. Hein. Donc, pourquoi pas? En revanche, il y a un problème avec Hey, c'est que je vais pas vous représenter le soft, mais en fait, il y a plein d'idées qui sont hyper intéressantes dans le sens où c'est des choses qui font chier tout le monde dans la gestion des emails. Genre, t'as pas le temps de répondre à un mail, tu veux le mettre de côté, mais tu veux pas le remettre en non-lu. Alors, comment tu fais? Quels sont les hacks que vous avez développés, etc. Donc, ils essayent de répondre à tout ce workflow, en fait, au niveau de la gestion de vos mails, la gestion, la catégorisation des mails, etc., etc., mais d'une manière extrêmement rigide. Donc, évidemment, ils gèrent les tags, etc., des trucs un peu classiques, mais à la base, il n'y a pas d'inbox, par exemple, dans Hey, il y a une inbox avec un M. Donc, en français, c'est pas facile à dire, mais en gros, c'est les trucs importants que tu veux recevoir. Et en fait, quand tu reçois des nouveaux mails, tu vas décider, est-ce que je veux lire ce truc encore une fois dans ma vie ou pas? Jamais, tu vois. Genre, tu reçois un truc qui n'est pas techniquement un spam, mais qui est une newsletter ou Roger de la compta qui t'envoie des reports sur un mail que tu n'iras jamais parce que c'est pas ton service, mais ça fait 4 fois que tu lui dis, il a toujours pas compris, et ben tu dis non, et ce truc-là, en fait, va te dégager, tu l'auras jamais dans tes mails non lus. Par contre, ça sera archivé, ça va arriver, et si jamais t'as besoin d'aller le retrouver un jour, il sera là.
D'accord.
Donc, il y a plein d'idées qui sont hyper intéressantes. Il y a une vidéo de 40 minutes où, justement, le CTO vous présente tout le produit, qui est, bon, voilà, il fait le tour de toutes les nouveautés, c'est vraiment le truc à regarder pour piger. Mais moi, je voulais vous expliquer pourquoi c'était non, en fait, hein, tout bêtement. C'est qu'en fait, il n'y a pas de gestion de nom de domaine. Donc, c'est évidemment payant. Il faut payer $100 par an pour 100 gigas de stockage. Ok, fair enough. C'est plutôt les prix, on va dire, qui sont sur le côté haut de la barre de prix par rapport à un Fastmail et compagnie, par exemple. Mais en revanche, tu te retrouves avec donc pas de nom de domaine. Et puis, il n'y en aura pas. Donc, voilà. Il n'y a pas de gestion de signature. Et il n'y en aura pas. Et t'es obligé d'utiliser leur service parce que Hey, c'est pas un client mail, c'est un service mail. Donc,
d'accord.
Tu peux pas te connecter avec autre chose que leur application ou leur site web. Donc, évidemment, c'est très bien codé. Les mecs font du bon boulot, hein, ça va très vite, etc. Mais, personnellement, je trouve qu'on est vraiment sur un truc ultra rigide qui répond à relativement peu de besoins pour plein de gens parce qu'en fait, il y a plein de gens qui vont se retrouver bloqués très vite. T'as besoin pour un business d'avoir un nom de domaine. Déjà, le fait de pas pouvoir faire ça, pour moi, c'est hallucinant, quoi. Donc, et puis, l'autre truc, c'est qu'il y a plein de fonctionnalités qui dépendent de leur service, justement. Et si jamais un jour vous avez besoin de migrer ailleurs, je pense que d'ailleurs, il n'y a pas de migration de prévu dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu peux envoyer tes mails, Gmail et compagnie vers Hey, mais te barrer de chez Hey, je sais pas comment ça va se passer. Donc, on verra bien. Pour l'instant, on en parle, mais c'est hyper tôt puisque, donc, il y a eu des démos de présentation, il y a eu des invitations de lancer, mais le service n'ouvre qu'au mois de juillet. Donc, c'est tout bientôt, hein, mais c'est pour ça qu'ils en parlent maintenant. Ça fait plus de 2 ans qu'ils bossent dessus et ils seront rentables même s'ils ont genre 50 000 clients. Le but du jeu, c'est pas d'aller détrôner un truc gratuit comme Gmail, évidemment. Ils auraient aucune chance, les pauvres. Mais ils sont même prêts, c'est budgété, hein. Si jamais ça marche pas, ils sont prêts à tirer sur la prise et de se dire, bon, voilà, on a essayé, vous êtes tous nuls, tant pis, on va le garder pour nous, quoi. Donc, ils ont fait un manifeste aussi qui vous explique pourquoi ils ont fait soft. Et vous allez voir, hein, je rigole pas quand je dis que c'est vraiment ils ont une vision du truc. Et ils n'en dériveront pas. Si ça vous plaît pas, très bien, allez essayer autre chose. Voilà, ça a ses mérites. Hein. Je vous laisse aller regarder tout ça. Moi, je suis un petit peu frustré parce qu'il y a vraiment des bonnes idées. Donc, du coup, j'ai prévu de faire un petit draft à nos amis de chez Fastmail en disant « Hey, tu voudrais pas copier ça ? Hey !»
Allez, on continue dans les apps avec de la traduction et DeepL.
Ouais, alors ça va être très, très, très rapide. DeepL, c'est une boîte qui fait de la traduction avec du deep learning derrière, qui traduit un paquet de langues, mais pas encore le coréen. Et ceux qui me connaissent savent que c'est frustrant pour moi, hein, évidemment, parce que la K-pop, c'est la vie. Quoique pas, hein, c'est chiant en ce moment, mais c'est, ça sera pour un autre podcast. Mais bref, ils traduisent du français, de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol, du portugais, de l'italien, du néerlandais, du polonais, du russe, du japonais et du chinois, ce qui est déjà pas mal. Et avec une qualité, mais qui atomise nos copains de chez Google. Mais en fait, si j'ai bien compris, la technique qui sont derrière, sans Google, elles n'existeraient pas non plus. Donc bon, c'est un petit peu compliqué. C'est disponible gratuitement pour aller faire du copier-coller directement sur leur site web. Je vous ai mis le lien dans la news qui accompagne le podcast. Et vous verrez, ça fonctionne pas mal. Mais j'ai fait des essais inversés un petit peu retors, tu vois, de trucs en anglais que j'avais écrit, que j'ai remis, pour voir comment ils me le retraduisaient en français. Et il s'en sort vraiment bien, même sur des trucs qui sont limite à la limite de l'argot, par exemple. Donc voilà, c'est à suivre de près, voilà, c'est le rêve d'un jour de plus avoir à apprendre toutes ces langues compliquées avec des verbes qui sont jamais au bon endroit. On n'y est pas encore, mais ça donne un bon coup de main.
Allez, on passe du côté de la culture et on va se poser un petit peu. On va parler jazz avec
qu'est-ce qui se passe?
Avec un groupe au nom particulier. Boron and the Club of Gore. Je vous en avais déjà parlé il y a très longtemps dans un Vendredisque, à l'époque où je m'en occupais avant que l'ami Matt Murdock prenne leur lait. Alors, c'est quoi, Boron and the Club of Gore? C'est une formation avec une histoire un peu rigolote puisqu'ils ont été, ça a été fondé en 1992 à Mülheim, en Allemagne. On s'en doutait un peu au nom. Par quatre membres de différents groupes de grindcore, hardcore, death metal et doom metal. Et les mecs se sont dit, ouais, en fait, on a aussi envie de faire du jazz planant. Donc voilà.
La drogue.
Alors, ils ont sorti 9 albums à ce jour. C'est vraiment très, très bien. Et je voulais vous parler du dernier, en fait, Patchouli Blue, qui est sorti en janvier. Je l'avais un peu loupé. Il était passé sous mon radar. Donc, c'est du jazz planant, voire ambient, un peu dans la veine de ce que peut produire Angelo Badalamenti, notamment pour la série Twin Peaks. Donc c'est vraiment très posé, très chill. Personnellement, je trouve ça parfait pour bosser. Et comme en ce moment, je galère un peu à boucler le tome 2 de mon bouquin sur Marvel Studios, je m'écoute ça en boucle, ça me met dans la zone et ça me permet d'avancer. Et histoire d'adoucir un peu votre vendredi matin, on va s'écouter un extrait de cet album, le morceau titre Patchouli Blue. Patchouli Blue, donc Boron and the Club of Gore, et comme on a sorti les cigares et qu'on a tamisé l'ambiance, on continue dans la culture, puisque Spotify continue de faire nom nom nom, c'est bon le podcast, hein, pour ceux qui doutaient encore de leur appétit de ce côté-là, encore une news qui vient s'ajouter à la pile. La société suédoise de streaming vient de signer un accord exclusif avec Warner Bros, et plus particulièrement avec sa filiale DC Entertainment, qui s'occupe donc des comics DC, Batman, Superman et compagnie, pour produire une série de podcasts, en fait, sur les franchise iconique de la maison. Ce seront bien évidemment des podcasts exclusifs à la plateforme, mais ils seront gratuits, même sans abonnement, et on n'en sait pas beaucoup plus pour le moment. Marvel s'était lancé aussi dans le podcast narratif il n'y a pas très longtemps avec Wolverine The Long Night. D'ici, de leur côté, ils n'avaient rien du tout. Alors, faut voir ce que ça peut donner. Marvel n'a pas relancé l'expérience depuis, ou alors c'est complètement passé sous mon radar aussi, mais il me semble qu'ils se sont arrêtés à cette série sur Wolverine. Ils n'ont rien fait d'autre depuis. Donc voilà, du côté de Spotify, eux, ils ont pas la l'intention de s'arrêter à DC Comics, puisqu'ils parlent déjà d'aller puiser dans le catalogue complet de Warner Bros. Studios, donc ils sont relativement chauds. Et j'aurais pu également vous parler du deal de Spotify pour un autre podcast avec Kim Kardashian, mais tout le monde s'en fout, donc elle a raison. Et du coup, on n'en parlera pas. On passe du côté de la tech. Tu voulais nous parler des petits écouteurs.
Oui, des petits écouteurs pas chers de nos amis de chez Oki, qui font plein de trucs, hein, comme vous le savez. Des batteries, des écouteurs, certes, mais ils ont vraiment une gamme de produits assez ouf. On avait parlé de claviers, de tapis, souris qui font des couleurs, etc.
Tout à fait.
Etc. Du coup, là, j'ai pu tester les derniers écouteurs qui sont disponibles chez nous pour des sommes risibles, puisque du coup, quand on parle écouteurs petits et qui tiennent dans les oreilles en Bluetooth, évidemment, tout le monde pense AirPods, puisque c'est eux qui ont ouvert la voie, c'est eux qui ont expliqué que oui, si, si, c'est faisable. Mais ça reste relativement cher, même si la qualité est au rendez-vous. Du coup, ils se sont dit, nos amis chinois, qu'est-ce qu'on peut enlever pour continuer à faire un truc qui tient à peu près la route. Et actuellement, les deux fers de lance de chez eux, parce qu'il y a évidemment tout le monde s'est mis sur le secteur, hein, c'est leurs écouteurs EPT21 et T20, qui sont très très proches l'un de l'autre et qui ont un avantage par rapport à la production un petit peu haut de gamme actuelle, c'est que t'en as un qui vaut quand même 36€ sur Amazon en ce moment. Je vous ai mis mis les petits liens affiliés qui vont bien sur la news du podcast.
On est loin du prix des AirPods là. Hein,
ah bah oui oui, moi j'en ai perdu un, ça m'a coûté 90 balles. Hein, donc voilà. Donc le EPT21 c'est actuellement 36€, alors ça changera peut-être, hein, mais évidemment je vous donne les tarifs au moment où j'enregistre, et c'est 40 balles pour les T20. Ce qui les différencie, c'est leur forme et leur certification au niveau de l'étanchéité. Les deux sont Bluetooth 5, les T21 sont IPX4, les T20 sont IPX5. Les T21 ont une autonomie un petit peu supérieure avec 25 heures au total, contre 20 heures sur les T20, ça se joue à pas grand chose, hein, et ça charge en 2 heures. C'est le même principe que les AirPods, c'est-à-dire qu'en fait, les trucs qui durent 4 heures et t'as plusieurs charges en les mettant dans leur petite boîte. C'est exactement le même système que d'habitude. Autre avantage, les T20 ont aussi une mousse supplémentaire qui est à mémoire de forme, mais qui n'est pas complètement compatible avec mon oreille, car j'ai un souci. Alors, je les ai testés tous les deux, évidemment, hein, mais je n'aime pas les intras, et ce sont deux modèles intras, contrairement aux AirPods, qui sont des modèles que tu poses dans tes petites oreilles et tout se passe bien. Les intras, moi, je sais que t'aimes bien, moi, j'ai vraiment un souci avec ça. Du coup, j'ai pu tester parce que, de toute façon, ils sont tous livrés avec plusieurs embouts, donc t'as des grands, des médiums classiques et des petits. Et avec les petits, j'ai pu vraiment vérifier que ça tenait plutôt pas mal. Et le son, bah, malheureusement, t'en as quand même pour ton argent, dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que bah, ça coûte pas cher, mais t'es quand même pas sur une qualité incroyable.
Ouais.
Comme d'habitude, hein, t'as des médiums un peu sacrifiés, t'as des aigus un peu trop présents, et puis t'as des basses qui sont, bah, comme avec tous les intras de la Terre, soit très présentes, elles font leur boulot, y a pas de souci, soit si tu les mets pas correctement et que ton oreille a décidé que les intras c'était pas possible ou que le truc s'adapte pas bien, bon bah là les basses elles disparaissent instantanément, puisque c'est vraiment fait pour aller fonctionner dans votre canal auditif, sinon c'est la mort. À ce prix-là, j'ai envie de dire, testez, vous perdrez rien à tenter, surtout avec Amazon, puisque je vous rappelle que les retours sont quand même assez easy avec eux. On est sur un produit qui est pas cher, qui est qualitativement assez intéressant. Le T20, il y a un petit truc qui me fait marrer, c'est qu'il est livré dans une petite boîte simili-cuir, qui est full plastique, je confirme. Mais tu sais, ils ont fait une espèce de rendu sur le plastique au-dessus qui te fait croire que c'est marbré, tu vois. Full vache italienne, il n'y a pas de problème. Donc pas du tout, évidemment, hein. Mais on est sur des modèles avec, si vous devez choisir entre les deux, je vous conseillerais peut-être les T20, puisque on est quand même sur le modèle avec la mousse à mémoire de forme qui peut être utile chez certains. Et puis surtout, ils sont un petit peu plus discrets. Les T21 reprennent en fait un peu le look des AirPods, que certains n'aiment pas du tout, avec la tige. En revanche, il y a un avantage à cette tige, c'est que, a priori, pour les essais que j'ai fait en appels vocaux, les gens entendent un petit peu mieux avec le T21. Alors, il y a tellement de paramètres qui peuvent rentrer en ligne de compte sur ce problème-là que je préfère pas m'avancer trop. Mais en tout cas, le look des T20 et les boutons pour pouvoir stopper la musique, passer à la piste suivante, etc., etc., sont un petit peu plus sympas. En revanche, il n'y a pas de contrôle de volume à l'horizon. C'est un classique avec ce genre de produit. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de surprise. Mais à ce tarif-là, écoutez, ça se tente. J'ai eu juste une petite surprise à un moment quand j'ai remis les T21 dans leur boîte. C'est que bah, à un moment je les entendais biper ma musique, en fait ils s'étaient pas déconnectés automatiquement du téléphone, donc j'ai pas compris. J'ai eu le bug deux fois, donc est-ce que c'est un problème avec mon Samsung ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai pas eu le problème avec les T20 les autres, donc bon écoutez, c'est à suivre, mais encore une fois, pour moins de 40 balles vous pouvez vous payer des écouteurs qui vous dépanneront bien, ça bloque pas mal les bruits comme d'habitude avec les intras, et puis bah, si vous en paumez un dans le métro, comme ça m'est arrivé avec l'AirPod, vous aurez vachement moins le seum. d'ailleurs, je venais de voir ce jour-là, je m'en rappelle encore, et j'étais très énervé.
Oui, je m'en souviens aussi. Allez, on va terminer cette sélection tech et ce podcast avec des news de nos amis d'AMD.
Ouais, qui continuent d'enfoncer le clou et qui sortent une nouvelle gamme de Ryzen. C'est la série des 3000 XT. Et en fait, c'est des refresh des 3900 XT, 3800 XT, 3600 XT, etc., etc., qui seront disponibles à partir du 7 juillet. Pour l'instant, il y a un embargo sur les perfs et sur les détails techniques, mais on se doute que ça sera pas plus de 4% de perfs en plus sur du single thread. C'est toujours mieux qu'avant, mais ça reste de toute façon extrêmement proche de ce qui existait déjà. Je vous ai linké une news qui résume tout ça pour avoir toutes les informations qui vont bien chez Anantech, qui fait un travail de pro comme d'habitude. Les tarifs annoncés sont très proches des tarifs de l'époque pour le 3900X, par exemple. On est sur les mêmes consommations, sur les mêmes spécifications techniques. En gros, la fréquence de boost sera de 100 MHz de plus sur un 3900 XT, par exemple. Donc 4,7 GHz au lieu de 4,6. Ça va pas changer votre vie, hein. Donc c'est pas une upgrade pour les gens qui ont déjà du matos, simplement une mise à jour pour être toujours très concurrentiel vis-à-vis de Intel, qui a décidément du mal à revenir au niveau. Il y a un tableau complet pour aller voir tout ce qui est dispo chez Anantech, qui est linké dans le billet qui accompagne le podcast. En revanche, la surprise, c'est que tout le monde se disait, bon bah voilà, ils viennent de sortir ça, ça sort le 7 juillet, du coup les Ryzen 3, donc la nouvelle génération, sera peut-être décalée à 2021, puisque c'est quand même un peu bizarre de sortir ça là, maintenant, tout de suite après, quoi. Eh bien non, nos amis d'AMD ont annoncé que ça sera bien pour 2020. Certes, ils n'ont pas de pression de la part d'Intel, mais ils comptent pas leur laisser le temps de souffler, hein. Ils leur maintiennent la tête sous la flotte. Donc, on devrait avoir des annonces sur la prochaine génération d'ici quelques semaines, quelques mois au pire. Ça va être, à mon avis, prévu pour la fin de l'année. Et si vous cherchez à upgrader votre bécane, bah, vous pouvez foncer maintenant, parce que c'est de toute façon, les générations actuelles sont vraiment excellentes. Mais si vous avez encore un peu de marge, bah, vous pouvez attendre de voir ce qui va être annoncé. De toute façon, ça aura un impact bénéfique sur les prix, quoi qu'il arrive. Donc, il n'y a pas de problème. Personne ne sera lésé dans l'histoire. Moi, je suis juste content de les voir revenir à ce niveau-là et mettre des claques à droite, à gauche, à Intel. Maintenant, on attend de voir ce que ça va donner sur les cartes graphiques. Et pour ça, il va falloir être encore un petit peu patient.
Et c'est la fin de ce 136e épisode de Torréfaction. Si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi 8h, pour une nouvelle sélection de l'actu. On vous rappelle l'existence du Patreon, patreon.com/geekzonefr, si vous voulez nous soutenir et payer un petit abonnement mensuel d'un euro, 2 euros, 3 euros, ce que vous pouvez. Sachez que ça nous aide grandement, surtout par les temps qui courent. Et puisqu'on parle de boulot, bah, on va souhaiter un bon week-end et on va retourner travailler.
Ah bah oui, parce que voilà, hein, les freelances, c'est la vie, rappelez-vous.
Faut manger.
Surtout quand tu ouvres ta grande bouche et que tu dis pas de problème, je te rends ça lundi matin. Tu réalises qu'en fait, on est jeudi soir.
Ce que je ne fais jamais.
Et ouais, et tu sais quoi, ce qui est bien, c'est que j'apprends pas, en fait. Tu vois, ça fait quoi, plus de 10 ans que je fais ce boulot, et des fois, tu veux faire plaisir encore aux gens, et tu te dis, non, mais pas de problème pour lundi matin. Et donc, si vous me voyez streamer et faire des jeux vidéo ce week-end, eh bien, tant
Mettez
pis pour moi.
C'est ça.
À plus.
Ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Les clairvoyants, c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorie-crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr. On vous y attend, amis True Believers.
Gonna break your old man's heart.
If I have to.
Nobody has to break anything.
Clearly, you've never made an omelet.
You beat me by 1 second.